L'abrégé du Capital de Karl Marx par Carlo Cafiero. L'abrégé du Capital de Karl Marx par Carlo Cafiero. L'accumulation primitive. L'accumulation primitive. L'accumulation primitive. Nous voici arrivés à la fin de notre drame. Nous avons rencontré un jour le travailleur sur le marché, où il était venu pour vendre sa force de travail. Et nous l'avons vu contracter d'égal à égal avec l'homme aux écus. Il ne savait pas encore combien serait dur le chemin du calvaire qu'il devait gravir. Il n'avait pas encore approché de ses lèvres l'amer calice qu'il devait vider jusqu'à la lie. L'homme aux écus, qui n'était pas encore devenu capitaliste, n'était alors que modeste possesseur d'une minime richesse, timide, incertain de la réussite, de l'entreprise dans laquelle il engageait toute sa fortune. Voyons maintenant comment a changé la scène. L'ouvrier, après avoir, par son premier surtravail, donné naissance au capital, a été opprimé par le travailleur excessif d'une journée excessivement prolongée. Par la plus-value relative, le temps de travail nécessaire à son entretien fut restreint et prolongé celui du surtravail, destiné à nourrir toujours plus richement le capital. Dans la coopération simple, nous avons vu l'ouvrier soumis à une discipline de caserne et entraîné par le courant de tout un enchaînement de forces de travail, s'exténuer toujours plus pour alimenter davantage le capital sans cesse grossissant. Nous avons vu l'ouvrier mutilé, avili et déprimé au plus haut point par la division du travail dans la manufacture. Nous l'avons vu endurer les indicibles souffrances matérielles et morales que lui a causé l'introduction des machines dans la grande industrie. Exproprié de la dernière parcelle de sa vertu d'artisan, nous l'avons vu réduit à l'état de simple serf de la machine, transformé de membre qu'il était d'un organisme vivant en appendice vulgaire d'un mécanisme, torturé par le travail vertigineusement intensifié de la machine, qui à chaque instant menace d'arracher un lambeau de ses chairs ou de le broyer complètement dans ses terribles engrenages. Et, de plus, nous avons vu sa femme et ses jeunes enfants devenus les esclaves du capital. Et pendant ce temps, le capitaliste, immensément enrichi, lui paie un salaire qu'il peut, à son bon plaisir, diminuer, tout en se donnant l'air de le maintenir au même taux, ou même de l'augmenter. Enfin, nous avons vu l'ouvrier, temporairement inutilisé par l'accumulation du capital, passer de l'armée industrielle active à la réserve, puis tomber ensuite pour toujours dans l'enfer du paupérisme. Le sacrifice est consommé. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? D'une façon bien simple. L'ouvrier était, il est vrai, possesseur de sa force de travail, avec laquelle il aurait pu produire chaque jour beaucoup plus que ce dont il avait besoin pour lui et pour sa famille. Mais il lui manquait les autres éléments indispensables, c'est-à-dire les moyens de travail et les matières premières. Dépourvu donc de toute richesse, l'ouvrier a été forcé, pour gagner sa vie, de vendre son unique bien, sa force de travail, à l'homme aux écus, qui en a fait son profit. La propriété individuelle et le salariat, fondement du système de production capitaliste, ont été la cause première de tant de souffrances. Mais c'est une iniquité, c'est un crime. Qui donc a conféré à l'homme le droit de propriété individuelle ? Et comment l'homme aux écus a-t-il pu se trouver en possession d'une accumulation primitive, origine de tant d'infamie. Une voix terrible sort du temple du dieu capital et crie « Tout cela est juste, parce que tout cela est écrit dans le livre des lois éternelles. » Il y eut autrefois un temps très lointain où les hommes vaguaient encore libres et égaux sur la terre. Un petit nombre d'entre eux furent laborieux, sobres et économes. Tous les autres furent paresseux, jouisseurs et dissipateurs. La vertu fit riche les premiers, le vice fit misérable les seconds. Ceux qui formaient le petit nombre eurent le droit, eux et leurs descendants, de jouir des richesses, vertueusement accumulées, tandis que ceux qui formaient le grand nombre furent contraints par leur misère à se vendre aux riches, furent condamnés à perpétuité à les servir, eux et leurs descendants. Voilà comment explique la chose certains amis de l'ordre bourgeois. Voilà l'insipide enfantillage que M. Thiers, par exemple, pour défendre la propriété, rabâche encore avec solennité aux Français jadis si spirituels. Si telle eût été en effet l'origine de l'accumulation primitive, la théorie qui en dérive serait aussi juste que celle du péché originel et celle de la prédestination. Le père a été paresseux et jouisseur, le fils doit être voué à la misère. Celui-ci est le fils d'un riche, il est prédestiné à être heureux, puissant, instruit, robuste, etc. Celui-là est le fils d'un pauvre, il est prédestiné à être malheureux, faible, ignorant, abruti, etc. Une société fondée sur une loi semblable devra certainement finir comme on finit déjà tant d'autres sociétés, moins barbares et moins hypocrites. Tant de religions et de dieux, en commençant par le christianisme, dans les lois duquel on trouve des exemples analogues de justice. Nous pourrions nous arrêter ici, s'il nous était permis de rester sur cette impertinence bourgeoise. Mais notre drame a un dénouement digne de lui. Comme nous le verrons tout à l'heure en assistant à son dernier acte. Ouvrons l'histoire. Cette histoire écrite par les bourgeois et pour l'usage de la bourgeoisie. Cherchons-y l'origine de l'accumulation primitive. Et voici ce que nous y trouverons. À l'époque la plus reculée, des groupes de population nomades s'établirent dans les localités les mieux situées et les plus favorisées de la nature. Ils fondèrent des villes, se mirent à cultiver la terre et à se livrer aux diverses occupations que pouvaient être nécessaires à leur bien-être. Mais, au cours de leur développement, ces groupes se rencontrèrent et s'entrechoquèrent. Il en suivit des guerres, des meurtres, des incendies, des rapines et des carnages. Tout ce que possédaient les vaincus devint la propriété des vainqueurs, y compris les personnes des survivants qui furent tous réduits en esclavage. Voici l'origine de l'accumulation primitive dans l'Antiquité. Venons-en au Moyen-Âge. Dans cette seconde époque de l'histoire, nous ne trouvons qu'une série d'invasions. Peuples conquérants, faisant irruption dans les pays les plus riches, occupés par d'autres peuples, et toujours le même refrain de massacres, de pillages, d'incendies. Tout ce que possédaient les vaincus devint la propriété des vainqueurs, avec cette seule différence que les survivants ne furent pas réduits en esclavage, comme dans l'Antiquité, mais eurent à subir un autre genre de servitude et devinrent, en qualité de serfs, la propriété des seigneurs, avec la terre à laquelle ils étaient attachés. Au Moyen-Âge, nous ne trouvons donc pas davantage la moindre trace de cette application au travail, de cette sobriété et de cette économie chantée par la doctrine bourgeoise comme la source de l'accumulation primitive. Et il faut noter que le Moyen-Âge est l'époque à laquelle les plus illustres de nos possesseurs actuels de richesses se vantent de faire remonter leur origine. Mais arrivons pour terminer à l'époque moderne. La révolution bourgeoise a détruit la féodalité et transformé le servage en salariat. Mais en même temps, elle a enlevé aux travailleurs le peu de moyens d'existence qui lui assuraient le régime de servage. Le serf, bien qu'il dût travailler la plus grande partie du temps pour son seigneur, avait pourtant un lopin de terre, ainsi que les moyens et le temps nécessaires pour le cultiver. La bourgeoisie a détruit tout cela et a fait du serf un libre travailleur qui n'a pas d'autre alternative que de se faire exploiter, de la façon que nous avons vue, par le premier capitaliste venu, ou de mourir de faim. Entrons maintenant dans les détails. Ouvrons l'histoire d'un peuple et voyons comment a eu lieu l'expropriation des populations agricoles et la formation de ces masses ouvrières destinées à fournir leur force de travail aux industries modernes. Nous prendrons, comme de coutume, nos exemples en Angleterre, parce que l'Angleterre étant le pays où la maladie que nous étudions se trouve à l'état la plus avancée, c'est elle qui peut nous offrir le meilleur champ d'observation. En Angleterre, le servage avait disparu en fait vers la fin du XIVe siècle. L'immense majorité de la population se composait alors, et plus encore au XVe siècle, de paysans libres et propriétaires, quel que fût d'ailleurs le terme féodal sous lequel étaient plus ou moins dissimulés leurs droits de possession. Dans les grands domaines féodaux, l'ancien bélif, qui était lui-même un serf, était remplacé par un fermier libre. Les salariés de l'agriculture se composaient en partie de paysans propriétaires qui occupaient leur moment de loisir à travailler chez les grands propriétaires fonciers, en partie d'une classe peu nombreuse de véritables salariés. Mais ces derniers aussi étaient en même temps jusqu'à un certain point des paysans indépendants, car, outre leur salaire, ils avaient la jouissance d'une étendue de terrain, de 4 acres au minimum, et d'un cottage. Ils partageaient en outre avec des paysans proprement dits la jouissance des terres communales, sur lesquelles ils envoyaient paître leur bétail et qui leur fournissaient le combustible, bois, tourbe, etc. Le prélude de la Révolution, qui créa les fondements du mode de production capitaliste, se joua dans le dernier tiers du XVe et le premier tiers du XVIe siècle. Le licenciement des suites féodales des seigneurs jeta sur le marché une masse de prolétaires sans feu ni lieu. Masse qui fut considérablement accrue par l'usurpation des biens communaux et par l'expulsion des paysans de terres sur lesquelles ils avaient eu, dans le régime féodal, autant de droits que les seigneurs. En Angleterre, la cause immédiate et particulière de ces expulsions fut l'épanouissement des manufactures de draps en Flandre et l'augmentation du prix de la laine qui en fut la conséquence. Transformation des terres labourables en pâturage à moutons, tel fut alors le mot d'ordre. Harrison décrit la ruine du pays causée par l'expropriation des petits paysans. Qu'importe à nos grands usurpateurs, les habitations des paysans et les cottages des ouvriers agricoles furent démolis ou voués à l'abandon. Si on veut consulter les anciens inventaires de chaque domaine seigneurial, on trouvera que d'innombrables maisons de petits cultivateurs ont disparu, que la campagne nourrit beaucoup moins d'habitants qu'autrefois, que beaucoup de villes sont déchues, bien que quelques autres, fondées depuis, prospèrent. Des villes et des villages qu'on a détruits pour faire des parcs à moutons, et où il ne reste plus que la demeure des seigneurs. Je pourrais faire une longue énumération. Une nouvelle et terrible impulsion fut donnée à l'expropriation violente des masses populaires au XVIe siècle par la réforme et le vol colossal des biens de cette église qui en fut la suite. L'église catholique était à l'époque propriétaire sous la forme féodale d'une grande partie du sol anglais. La suppression des couvents, etc., jeta les habitants de leur ancien domaine dans le prolétariat. Les biens de l'église furent pour la plupart donnés à David Favori ou vendus à vil prix à des citadins, à des fermiers spéculateurs qui commencèrent par expulser en masse les anciens tenanciers héréditaires. le droit de propriété légalement consacré qu'avaient les campagnards pauvres sur une partie de la dîme ecclésiastique fut confisqué sans phrase. Dans la 48e année du règne d'Élisabeth, on fut forcé de reconnaître officiellement le paupérisme par l'établissement de la taxe des pauvres. Les auteurs de cette loi eurent honte d'en avouer les motifs, et contrairement à l'usage traditionnel, ils la publièrent sans aucun préambule. Sous Charles Ier, elle fut déclarée perpétuelle et ne fut modifiée qu'en 1834 pour recevoir une forme plus dure. Alors, comme indemnité de l'expropriation subie, on fit aux pauvres un châtiment. Au XVIIIe siècle, la loi elle-même devint l'instrument du vol des terres du peuple. La forme parlementaire de ce vol est celle des lois sur la clôture des terres communales. En d'autres termes, des décrets par lesquels les landlords s'adjugent eux-mêmes la propriété populaire comme propriété privée. Des décrets d'expropriation du peuple. Sir F.M. Hayden a cherché à représenter la propriété communale comme étant la propriété privée des landlords, qui ont pris la place des seigneurs féodaux. Mais il se réfute lui-même en demandant que le Parlement vote un statut général qui sanctionne une fois pour toutes la clôture des communaux, car il reconnaît par là qu'un coup d'État parlementaire est nécessaire pour légaliser les changements des biens communaux en propriété privée. Et en même temps, il réclame une indemnité pour les cultivateurs pauvres. S'il n'y avait pas d'expropriés, il n'y aurait évidemment personne à indemniser. En somme, la situation des classes inférieures du peuple a empiré presque sous tous les rapports. Les petits propriétaires et les petits fermiers ont été réduits à l'état de journaliers et de mercenaires. Et en même temps, la vie dans cette condition est devenue plus difficile à gagner. L'usurpation des terres communales et la révolution qui s'en est suivie dans l'agriculture ont agi en effet d'une manière si dure sur les travailleurs agricoles que, d'après Hayden, entre 1765 et 1780, leur salaire commença à tomber au-dessous du minima et dut être complété au moyen de secours officiellement distribués. Leur salaire, dit-il, n'était plus suffisant pour les besoins indispensables de la vie. Au XIVe siècle, on a perdu naturellement jusqu'au souvenir du lien qui avait uni l'agriculteur à la propriété communale. Pour ne pas parler du temps plus ancien, le peuple des campagnes a-t-il jamais reçu un liard d'indemnité pour les 3 511 770 acres de terrains communaux qui, entre 1801 et 1831, lui ont été volés et que les landlords se sont adjugés eux-mêmes par la voie parlementaire? Le dernier procédé d'une portée historique employé pour exproprier les travailleurs des campagnes doit être étudié en particulier dans les Highlands d'Écosse. C'est là qu'il a été appliqué de la manière la plus féroce. George Ensor dit dans un livre publié en 1818 « Les grands seigneurs d'Écosse ont exproprié des familles comme ils eussent arraché des mauvaises herbes. Ils ont traité des villages entiers et leurs populations comme les Indiens traitent dans leur vengeance les repères des bêtes féroces. On trafique d'un homme pour une toison de brebis, pour un gigot de mouton, pour moins encore. Au temps de l'invasion des provinces septentrionales de la Chine, on proposa dans le Grand Conseil des Mongols d'exterminer la population et de transformer les terres en pâturage. Beaucoup de propriétaires des Highlands ont mis cette proposition à exécution dans leur propre pays contre leurs propres compatriotes. Voilà au milieu de quelles horreurs, au moyen de quelles mesures sanguinaires, s'est accomplie l'expropriation des populations agricoles et la formation de cette classe ouvrière qui devait être livrée en pâture à la grande industrie. Nous voilà bien loin de l'idylle des économistes. c'est le fer et le feu qui ont été à l'origine de l'accumulation primitive. C'est le fer et le feu qui ont préparé au capital le milieu nécessaire à son développement, la masse de force humaine destinée à l'alimenter. Et si aujourd'hui le fer et le feu ne sont plus les moyens habituels employés par l'accumulation toujours croissante, c'est parce qu'elle dispose, pour les remplacer, d'un autre moyen beaucoup plus inexorable et beaucoup plus terrible. Une des glorieuses conquêtes de la bourgeoisie moderne, un moyen qui forme une partie nécessaire de l'organisation même de la production capitaliste. Un moyen qui agit de lui-même, sans bruit, sans scandale. Un moyen tout à fait conforme à la civilisation. La faim. Nous ne pouvons, dans ce cours abrégé, aborder encore l'histoire des exploits du capital dans les colonies. Nous renvoyons nos lecteurs au récit des grandes découvertes maritimes, à commencer par celle de Christophe Colomb, et de toutes les colonisations, en nous bornant à citer à ce propos les paroles d'un homme dont la ferveur chrétienne a fait tout le renom. White, qui s'exprime ainsi. Les barbaries et les atrocités exécrables perpétrées par les races dites chrétiennes dans toutes les régions du monde et contre tous les peuples qu'elles ont pu asservir, ne trouvent leur équivalent à aucune époque de l'histoire universelle, chez aucune race, si sauvage, si grossière, si impitoyable, si éhontée qu'elle fût. Si, comme le dit Marie Augier, dans Du Crédit Public en 1842, c'est avec des taches naturelles de sang sur une de ses faces que l'argent est venu au monde. Le capital, lui, y est venu, suant le sang et la boue par toutes les pores. Et c'est là tout simplement de l'histoire aux bourgeois, une triste histoire de sang, bien digne d'être lue et méditée par vous qui savez, dans votre vertu, exprimer une saine horreur pour la soif de sang des révolutionnaires modernes. Par vous qui déclarez ne pouvoir permettre aux travailleurs que le seul usage de moyens moraux.